franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, les milliards d'étoiles du télescope Gaïa qui étaient mises en orbite en décembre 2013.
3, 2, 1, top, décollage.
Connaître les distances des étoiles entre elles, c'est juste la base de l'astronomie. C'est pourquoi nous sommes tous très impatients d'avoir les résultats de Gaïa.
3 ans plus tard, les 450 chercheurs européens qui travaillent sur le projet dévoilent donc une carte du ciel composée de plus d'un milliard d'étoiles visibles. Et ça n'est qu'un début. Bonjour François Mignard.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'équipe scientifique de Gaïa. Vous travaillez à l'Observatoire CNRS de la Côte d'Azur. Et puis avec nous en studio, Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Un milliard d'étoiles, c'est un chiffre évidemment symbolique. C'est la première vague de cette publication, François Mignard.
Oui, c'est la première étape qui vient juste 1000 jours après le lancement. L'observation du satellite ont pu être traitées pour fournir ce premier catalogue de 1 milliard 140 millions d'étoiles. Le plus large catalogue jamais publié, c'est-à-dire la liste la plus grande d'objets de la Voie lactée pour l'essentiel qu'on ait réalisé, mais surtout la plus précise. C'est là où est le vrai défi technique et scientifique, beaucoup plus que l'accumulation du nombre.
Alors Philippe Hénarejos, 1 milliard par rapport à ce qu'on voit à l'œil nu, c'est énorme, mais par rapport à notre galaxie, ça représente combien ?
Ça représente encore très peu,
oui.
Je crois que c'est de l'ordre du pourcent. Par rapport au nombre d'étoiles qu'il y a dans la galaxie.
Donc 100 000 milliards d'étoiles à peu près.
Il doit y avoir 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, quelque chose comme ça. Donc malgré tout, c'est un énorme progrès parce que jusque-là, on voyait encore beaucoup moins que ça, peut-être 10 fois ou 100 fois moins que ça, malgré un satellite précédent qui avait été envoyé déjà par l'Agence spatiale européenne qui s'appelait Hipparcos dans les années 90. Et donc oui, c'est déjà un gros progrès parce que on a beau voir la Voie lactée comme ça, on n'en voit qu'une toute petite partie et il faut commencer à la cartographier pour continuer à faire de la science de plus en plus précise.
François Mignard, on parle de la précision de Gaïa, mais quelle différence avec les autres images dont parlait Philippe Hénarejos qu'on avait obtenues avant Gaïa ?
La précision, c'est à la fois la capacité à voir des objets proches qui, dans le passé, étaient vus comme une seule source, parce que c'était des plaques photographiques pour l'essentiel, donc des objets qui sont trop proches l'un de l'autre sur le ciel apparaissent comme une seule source, donc il n'y a pas de numéro de catalogue, il n'y a qu'un seul numéro. Gaïa, pour ces objets-là, va être capable de dire, ben voilà, en fait, il y en avait 3, voire 4 dans cette source que l'on croyait unique. Ensuite, la précision, c'est aussi la localisation, c'est-à-dire avec quelle précision on peut dire c'est dans telle direction, combien on a de chiffres significatifs dans les coordonnées. Gaïa améliore la situation précédente d'un facteur 100. Et c'est là vraiment le saut qui est fait en termes scientifiques, parce que connaître la position des objets avec un facteur 100, ça veut dire que très rapidement, en comparant 2 mesures faites à 2 ans d'intervalle, on va pouvoir avoir également leur déplacement, ce qui était impossible du sol avec des mesures qui étaient 100 fois plus mauvaises.
Et du coup, sur ce milliard, combien sont de nouvelles étoiles qu'on ne connaissait pas du tout ?
Qui n'étaient pas cataloguées, c'était l'ordre de 400 millions.
Ah oui, quand même.
Dans ce catalogue, on s'aperçoit qu'il y en avait 400 millions qui étaient sur aucune liste précédente.
Mais comment on fait pour travailler sur une telle somme d'informations, François Mignard ? Ce sont les ordinateurs là, qui travaillent pour vous ?
Tout ça va de pair avec le progrès de l'informatique, à la fois dans la capacité de stockage, la vitesse avec laquelle sont faits les calculs et la rapidité d'accès aux données localement ou par le biais des réseaux. Sans ces progrès qui vont en parallèle, effectivement, il n'y aurait pas de mission Gaïa. Ça serait totalement impossible à faire.
Avec seulement la position des étoiles, on peut déjà commencer à faire de la science, Philippe Hénarejos ?
Oui, certainement, parce que les astronomes ont besoin de positions précises. Plus ils regardent loin ou plus ils regardent des objets petits, plus ils ont besoin de précision. Or, le référentiel, souvent, sont des astres qui se trouvent assez loin. Alors, parmi les objets qui ont été répertoriés par Gaïa, on parlait de beaucoup d'étoiles, essentiellement 1 milliard d'étoiles qui sont dans notre galaxie, mais il y a des sources qui sont beaucoup plus lointaines que ça, qui sont des quasars, sont des noyaux de galaxies très brillants. En fait, ils sont très brillants dans l'absolu, mais en fait, comme ils se trouvent très loin, ils brillent très peu. Donc, Gaïa les a intégrés à cet atlas, et il y a un maillage, je crois, je pense sous le contrôle de François Mignard, il y a 120 000 quasars qui ont été vus et positionnées très précisément par Gaïa, ce qui veut dire que ces sources qui sont très lointaines sont aussi très fixes et permettent d'avoir un référentiel de coordonnées dans le visible pour tous les observatoires. Par exemple, si vous découvrez un astéroïde, peut-être même un astéroïde qui va être géocroiseur et qui va venir frôler la Terre, eh bien, si vous êtes capable de le positionner aussi précisément que ça grâce à un quasar qui sera pas très loin de la position où il a été découvert, eh bien, vous arriverez à tracer son orbite très rapidement et très précisément, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais après, il y a tout un tas de phénomènes mouvants, que ce soit dans le système solaire ou dans la Voie lactée, qui ont besoin de cette référence absolue et précise, et à partir de laquelle tout un tas de recherches vont être possibles. Il faut voir que cet atlas, c'est un atlas, c'est un catalogue, c'est une base de données énorme à partir de laquelle divers astronomes dans divers domaines de l'astronomie vont pouvoir faire des recherches et donc des découvertes.
Oui, donc François Minière, c'est une avancée considérable de la connaissance et une façon de perfectionner la cartographie du ciel.
Oui, à ce stade, on est au stade de la cartographie, mais comme je l'ai indiqué, c'est une étape, c'est 1000 jours de la vie de Gaïa. Gaïa, c'est une mission qui dure 5 ans, probablement un peu plus, et dont les objectifs ne sont pas simplement de donner la position, mais de donner la distance de ces étoiles et de leur donner leur mouvement. Et là, quand on aura complété cet ensemble d'observations, il y aura réellement du nouveau dans la science, beaucoup plus que dans la simple cartographie qui est déjà énorme, puisque c'est une étape qu'il faut absolument franchir pour savoir sur quels objets on va continuer à travailler.
Et ça fait 2 jours, François Minière, que les données sont disponibles pour tout le monde. Est-ce qu'elles ont commencé à intéresser la communauté scientifique ?
Oui, il y a déjà eu 20 terabytes chargés, environ 100 000 accès. Et ce matin, il y avait un article qui est soumis dans les archives qui montre la rotation du grand nuage de Magellan, c'est-à-dire une galaxie satellite de la nôtre qui est à 150 000 années-lumière, puisque dans ce catalogue, il y a un petit sous-catalogue de 2 millions d'objets pour lequel on a déjà les mouvements. Et ils ont trouvé 29 étoiles de ce petit catalogue qui est dans le nuage de Magellan. Et l'image qu'ils ont produite, qui est maintenant sur le site de l'ESA, montre clairement la rotation du nuage de Magellan. Lorsque Gaïa aura fini sa mission, c'est pas 29 étoiles qu'il y aura avec des mouvements dans ce nuage, c'est probablement entre 1 et 10 millions. Voilà la différence.
Une toute petite question pour terminer. Est-ce que les gens qui ne sont pas chercheurs peuvent voir ces images quelque part produites par Gaïa ?
Alors, toutes les données Gaïa sont entièrement disponibles à tout le public, astronomes, non professionnels, amateurs du ciel, amateurs de poésie, qui ont envie de voir leur propre étoile, ils peuvent accéder totalement à la base de données. Bien évidemment, il faut avoir une certaine connaissance astronomique pour savoir quoi aller chercher, mais à la base, c'est totalement accessible. L'image dont je parle là, elle est accessible directement en cliquant sur le site de l'ESA, Gaïa. Vous l'avez en première page, vous voyez ces petites flèches qui vous montrent la rotation du nuage de Magellan, calculée il y a 2 jours. À partir des données Gaïa.
Bon, il y en a 1 milliard d'étoiles, il y en a pour tout le monde, hein, finalement. Est-ce que, juste dernière question, très très vite, François Minière, est-ce que tous les 1000 jours, vous allez découvrir 1 milliard de nouvelles étoiles ou pas ?
Non, le recensement, il va être un peu plus grand. Hein. Aujourd'hui, ouais. Il y en a 1 milliard, peut-être qu'il y en aura 1 milliard 4, 1 milliard 5, mais là, on commence à avoir la base sur laquelle on va travailler. Simplement, on va augmenter à la fois la précision et rajouter des données qu'on n'a pas aujourd'hui. Pas simplement position, vitesse, distance, mais couleur, température pour beaucoup d'étoiles, la masse, la composition chimique. Tout ça, ça fait partie du programme Gaïa sur les 5 ans à venir.
Et vous allez toutes les nommer ou pas ?
Pardon ? Vous allez... Non, on nomme pas les étoiles. Les étoiles, elles ont un numéro. Voilà, c'est un gros numéro.
C'est déjà pas mal. Merci beaucoup François Minière, merci à vous, merci Philippe Hénarejos, ciel et espace bien sûr pour un complément d'information, et puis Axel, à lundi
et
pour
bon
une
week-end.
Nouvelle lune, bon week-end. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 18 000 Anglais auraient arrêté de fumer grâce à la e-cigarette, c'est ce qu'affirme le British Medical Journal, un peu moins d'un adulte sur 5 fume au Royaume-Uni. Dans ce pays, les services publics proposent une aide à l'arrêt du tabac, incluant conseils et prescriptions, mais pas la e-cigarette, pourtant utilisée par 2,8 millions de personnes au Royaume-Uni. Les auteurs des travaux déplorent que les 18 000 ex-fumeurs recensés par cette étude présente un chiffre relativement faible. Il faut donc rester prudent puisque cette étude n'est pas un essai clinique. Impossible d'en tirer un quelconque lien de cause à effet entre l'utilisation de la e-cigarette et le nombre de sevrages. 3000 cerveaux vont permettre de mieux étudier les maladies psychiatriques. L'hôpital de Duffel en Belgique a reçu la plus importante collection de cerveaux de donneurs sélectionnés par un médecin anglais sur plus de 40 ans. Ils sont exploités à des fins de recherche, principalement sur la dépression et la schizophrénie. Cerveaux qui sont accompagnés d'un dossier médical tenu à jour jusqu'au décès du patient. Ils offrent un grand avantage, celui de n'avoir pas été affectés par les traitements médicaux inexistants à l'époque. Et puis selon la NASA, les 8 premiers mois de l'année détiennent les records de température. 2016 devrait donc décrocher la première place du classement, détrônant 2015 au passage. Et puis fait rarissime hier matin, une dépression subtropicale s'est creusée dans le golfe de Gascogne. Cette dépression unique possède des caractéristiques très particulières. Un cœur chaud surplombé par de l'air froid à très haute altitude. Un événement inédit à ces latitudes, la tropicalisation non donnée à cette dépression est en train de se dissiper.